Chapitre 2. La mère. Dès sa plus tendre enfance, Elisa avait été élevée et choyée en enfant gâté par sa maîtresse. Le voyageur qui a parcouru les États du Sud a dû souvent y remarquer l'élégance singulière, la douceur des manières et de la voix, qui semblent des dons particuliers aux carteronnes et aux mulâtresses. Citées les premières, ces grâces naturelles s'allient souvent à une éclatante beauté et presque toujours à un extérieur agréable et avenant. Elisa, telle que nous l'avons dépeinte, n'est point une figure de fantaisie, mais un portrait d'après nature, fait de souvenirs et dont nous avons vu l'original au Kentucky. Elle avait grandi sous la protection de sa maîtresse, à l'abri des tentations qui font de la beauté un si fatal héritage pour l'esclave. Plus tard, elle épousa un mulâtre, George Harris, d'une habitation voisine. Le jeune homme avait été loué par son maître à une fabrique de toile à sac, et son adresse, son intelligence, en avaient fait le meilleur ouvrier. Il avait inventé une machine à tailler le chanvre qui, si l'on considère l'éducation et les précédents de l'inventeur, témoignait d'autant de génie pour la mécanique qu'en a pu déployer Whitney dans sa machine à épurer le coton. Beau, bien fait, doué de manières agréables, George avait su se faire aimer de toute la fabrique. Néanmoins, comme ce n'était pas un homme, mais une chose, toutes ses qualités étaient soumises au contrôle d'un maître despotique, vulgaire et borné. Le dit gentilhomme, ayant ouï parler avec éloge de l'invention de Georges, monta à cheval un beau matin et se rendit à la fabrique pour voir ce qui faisait son immeuble. Il fut reçu avec enthousiasme par le fabricant, qui le félicita d'avoir un esclave d'un tel prix. Il visita la manufacture, la machine lui fut expliquée et montrée par Georges, qui, dans sa joie, parlait si couramment, se tenait si droit, avait la mine si haute et si mâle, qu'une inquiète conscience de son infériorité s'empara peu à peu du maître. Qu'avait à faire son esclave de parcourir le pays, d'inventer des machines, d'oser lever la tête parmi des gentilshommes? Il y couperait court, il le ramènerait au sillon, il le mettrait à creuser la terre et à bêcher pour voir s'il aurait toujours l'allure aussi fringante. En conséquence, à la grande stupéfaction du fabricant et de ses ouvriers, il réclama tout à coup le loyer de Georges et annonça son intention de le ramener chez lui. « Mais, monsieur Harris, lui remonta le fabricant, c'est bien subi. Qu'importe, est-ce que l'homme n'est pas à moi ? Nous serions disposés, monsieur, à hausser le prix de compensation. Du tout, je n'ai nul besoin de louer une de mes mains si cela ne me convient pas. Mais, monsieur, il semble particulièrement propre à ce genre de travail. C'est possible, il n'a jamais été propre à rien de ce que j'ai voulu lui faire faire. Songez qu'il a inventé cette machine, dit assez maladroitement un des ouvriers. Oui, une machine a épargné le travail. Il en inventera de reste, j'en réponds. Fiez-vous aux nègres pour cela. Que sont-ils autre chose que des machines à épargner le travail? Non, non, il marchera. Georges était resté pétrifié sous le coup de cette sentence, prononcée par un pouvoir qu'il savait irrésistible. Les bras croisés, les lèvres serrées, tout un volcan de sentiments amers brûlait dans son sein et envoyait des flots de feu dans ses veines. Sa respiration était courte et ses grands yeux noirs, pareils à deux charbons ardents, dardaient des étincelles. Il y avait à craindre quelque dangereuse explosion si le fabricant ne lui eût touché le bras et dit tout bas. « Cédez, Georges, suivez-le pour l'instant. Nous tâcherons de vous venir en aide. » Le tyran observa l'aparté et en devina le sens qui le confirma encore dans sa détermination. Georges, ramené chez le maître, eut en partage les travaux les plus vils et les plus pénibles. Il avait pu retenir toute parole offensante, mais l'éclair de son œil, le pli de son front assombri, disait assez clairement et assez haut que l'homme ne pouvait pas devenir une chose. C'était pendant l'heureux temps passé à la manufacture qu'il avait connu et épousé Elisa. Jouissant de l'estime et de la confiance de son chef, il pouvait aller et venir en toute liberté. Le mariage avait été approuvé par Madame Shelby, qui, avec un peu de la tendance qu'ont les femmes à se mêler de ces sortes d'affaires, était charmée d'unir sa belle favorite à un homme de la même classe et qui paraissait si bien lui convenir. La cérémonie s'était faite dans le grand salon et la maîtresse avait, de ses propres mains, mêlé les fleurs d'oranger aux beaux cheveux de la fiancée et recouvert sa tête charmante du voile nuptial. Il y avait eu à profusion des gants blancs, des gâteaux, du vin et des convives empressés de la beauté de la jeune fille et la générosité de la maîtresse. Pendant un an ou deux, Elisa put voir fréquemment son mari, et le bonheur du jeune ménage ne fut troublé que par la perte de deux petits-enfants, passionnément aimés de leur mère, et qu'elle pleura avec un désespoir qui lui attira les douces remontrances de Madame Shelby, anxieuse de ramener ses sentiments trop fougueux dans les limites de la raison et de la religion. Après la naissance du petit Henri, la jeune femme s'était un peu calmée. Chaque lien saignant, chaque nerf ébranlé, entrelacé de nouveau à cette frêle existence, se raffermissait et se fortifiait avec elle. Elisa avait été une heureuse femme jusqu'au jour où son mari, brutalement arraché à un chef bienveillant, était retombé sous la verge de fer de son propriétaire légal. Fidèle à sa parole, le fabricant alla voir M. Harris une semaine ou deux après l'enlèvement de Georges et mit en avant tout ce qui devait décider le maître à rendre à l'esclave son premier emploi.
« Vous pouvez vous épargner la peine d'en dire plus long, » répliqua sournoisement le propriétaire. « Je suis juge de mes propres affaires. »
« Je ne prétends pas non plus m'en mêler, monsieur. Seulement, je pensais que dans votre intérêt, vous pourriez consentir à nous louer votre homme au terme proposé. »
« Oh, je comprends de reste. Je vous ai vu cligner de l'œil et chuchoter le jour où je l'ai repris. Mais vous avez affaire à aussi fin que vous. Nous sommes dans un pays libre, monsieur. Cet homme est à moi et j'en fais ce qu'il me plaît. Voilà. »
Ainsi s'évanouit le dernier espoir de Georges.
Rien, plus rien qu'une vie d'abjects et pénibles travaux, rendue plus amère encore par toutes les indignités, toutes les cuisantes vexations de détails que la tyrannie est si habile à inventer. Un jurisconsulte des plus humains disait une fois « Le pire usage qu'on puisse faire d'un homme, c'est de le pendre. » Non, il y a une manière d'en user qui est encore pire.